Sud Radio, il est 3h. Parlons vrai.
Aper, la marque de vêtements qui respecte votre identité. En vente exclusive sur aper-mode.com. Présente.
Sud Radio, Berkov dans tous ses états.
Nous sommes en guerre.
Arrête de dire que la GPS est la marchandisation du corps de la femme, c'est quoi ça? Mais non, tu peux pas dire que j'achète un enfant.
J'en ai pas marre de ces taxes qui baissent jamais. Marre du prix de l'électricité. Marre qu'on nous laisse crever.
Nous sommes en guerre.
Nous sommes en guerre, oui, à bas bruit, à haut bruit, en guerre violente, guerre ouverte, guerre feutrée, à tous les étages. À tous les étages, et aujourd'hui on va parler de quoi? On va parler de cette guerre qui s'appelle la gestation pour autrui. Voilà. Alors comme ça, ça fait très altruiste, hein. On gère pour autrui, hein. Ça fait presque Abbé Pierre. C'est beaucoup plus compliqué que ça, la GPA. On va en parler avec Olivia Morel. Et puis nous allons parler de, parce qu'on l'a entendu, Olivia Morel sur les réseaux sociaux et elle a beaucoup de choses à dire et nous allons l'écouter. Cet entrepreneur qui a aussi, qu'on a entendu sur les réseaux sociaux, et il y a beaucoup de choses sur les réseaux sociaux, vous savez, beaucoup d'informations. Et lui, c'est très simple, c'est Romain Louaster qui s'occupe de bois et bûches et qui va crever, son entreprise va crever, pas lui bien sûr, parce que c'est très simple, sa facture d'électricité est passée de 4 000 à 15 000 euros. Voilà, à part ça, la France est la start-up nation, oui, et puis quelquefois c'est la let-down station, donc c'est quand même un peu embêtant. Et puis vous allez avoir aussi un spectacle, on est le 1er mai, on appelle, un spectacle, si vous passez par Paris, si vous êtes parisien, il faut aller le voir, c'est un hommage à Nadia Boulanger. Nadia Boulanger, qu'on ne connaît pas aujourd'hui, qui est évidemment décédée depuis longtemps, qui a été celle qui a donné à la musique Michel Legrand, Quincy Jones, Vladimir Kosma, Lalo Schifrin et tellement de gens dans le monde entier. Et il y a un très beau spectacle qui lui est consacré dans un théâtre parisien. Et enfin, nous allons recevoir Michel de Rosen, qui est chef d'entreprise, et qui va parler de quelque chose dont on parle très peu. Fraternité, oui, liberté, on en parle beaucoup. On parle beaucoup des droits, moins des devoirs. On parle de égalité. Et comment? Qu'est-ce que ça veut dire? Mais on parle pas beaucoup de fraternité. Est-ce que c'est encore un mot ou un vœu pieux? À tout de suite.
Sud Radio Rodez.
104.4.
Sud Radio.
Le ciel.
Aper, la marque de vêtements qui respecte votre identité. En vente exclusive sur aper-mode.com. Présente.
Ici Sud Radio. Les Français parlent aux Français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau.
Sud Radio Berkov dans tous ses états.
Père porteur, c'est un métier. Mère porteuse, c'est un métier. C'est une vocation. C'est un business. C'est quoi la GPA? On en parle tout de suite.
Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le fait du jour.
Allô maman, bobo. Maman, comment tu m'as fait? Je suis pas beau. Allô maman, bobo. Allô maman, bobo.
Oui. La chanson d'Alain Souchon. Mais Allô maman Bobo, ça peut avoir plusieurs significations, effectivement. Et quand j'ai entendu et que j'ai vu Olivia Morel sur les réseaux sociaux, je me suis dit qu'il fallait la faire vraiment venir parce que elle fait partie de ces milliers d'enfants nés par GPA. GPA, gestation pour autrui. Je rappelle juste la définition classique. On l'appelle la maternité de substitution, plus communément mère porteuse, est une pratique par laquelle une femme porte et accouche d'un enfant pour le compte d'une autre personne ou d'un couple qui deviendront les parents légaux de l'enfant après sa naissance. Ça, c'est la définition. Et puis, on parle de tout, on parle des chiffres d'affaires, de GPA traditionnel ou GPA gestationnel. Mais avant d'entrer dans tout cela, moi, ce qui m'a toujours frappé, et je crois que vous le partagez, c'est qu'on ne parle pas de la psychologie, de l'émotion de ces enfants nés par la GPA. Et aujourd'hui, cela fait une génération, moins. Et qu'est-ce qui se passe? Alors, Olivia Morel, vous nous en avez parlé, vous. Et ce que je voudrais savoir aujourd'hui, qu'est-ce qui vous a amené à dire « faut que je parle de cela ».
C'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai décidé d'en parler parce que déjà parce que je l'ai fait pour passer un message à mes parents à la base. Hein. C'était plutôt pour moi, pour une thérapie personnelle que j'ai commencé à prendre la parole.
D'accord.
Parler à mes parents parce que je n'étais incapable de les confronter.
De leur parler directement.
Directement, c'était impossible pour moi. J'avais trop peur de leur réaction. J'étais tétanisée, vraiment. Donc j'ai ouvert TikTok un jour et j'ai décidé de parler de ça. Et puis très vite, c'en est venu une lutte. Une lutte pour abolir cette pratique qui pour moi est inadmissible.
D'abord, pardon, racontez-nous, vous avez su comment et quand que vous étiez née par gestation pour autrui?
Je le dis très souvent, j'ai toujours eu ce sentiment à l'intérieur de moi, dans mon cœur, dans mon instinct.
Vraiment,
Mais très tôt, mes premiers souvenirs, c'est 6-7 ans, donc avant ça, j'ai vraiment pas de souvenirs à titre personnel. Mais très tôt, c'est viscéral, c'est à l'intérieur, je vois qu'il y a une différence avec ma mère, je vois que quelque chose se passe. Ça colle pas, il y a rien qui colle, il y a un décalage entre mes parents et moi. Il y a des attentes aussi hein, que mes parents ont vis-à-vis de moi. Je vois qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc je passe une adolescence très catastrophique, un carnage.
Avec vos parents, enfin.
Avec mes parents, oui. Avec mes parents, j'ai passé une crise identitaire énorme. Mais alors déjà l'adolescence c'est compliqué chez des enfants lambda, mais alors chez moi c'était démultiplié parce que justement je savais pas qui j'étais. J'étais en construction de moi-même et je pouvais pas me construire parce que je ne savais pas d'où je venais. Sans le savoir, sans avoir une preuve tangible, hein, évidemment, mais c'était à l'intérieur de moi.
Et comment vous l'avez su?
Écoutez, à 17 ans, j'ai ouvert Google, je dis souvent, j'ouvre Google, je tape Louisville, Kentucky, parce qu'il n'y avait aucune raison que mes parents, ma mère a accouché aux États-Unis, elle était française, mon père est suisse, tout ça n'avait aucun sens. Donc je commence à faire des recherches sur Internet, je tombe là-dessus.
Vous êtes née au Kentucky?
Exactement, je suis née à Louisville, Kentucky, en 91. Et c'est là où, voilà, je fais mes découvertes, j'ouvre Google, je vois qu'il y a, écrit des agences de gestation pour autrui qui se pratiquent dans cet endroit-là. Et c'est là où vraiment j'ai eu les réponses à mes questions. J'étais née de ça. Et à partir de ce moment-là, je le raconte à tout le monde. Je le raconte à tout le monde, mes médecins, mes amis.
Mais attendez, vous l'avez dit d'abord à vos parents?
Non, je ne l'ai jamais dit à mes parents, jamais. Parce que j'avais vraiment trop peur de les perdre.
Vous n'avez jamais affronté vos parents? Pourquoi tu ne le dis pas? Pourquoi, etc.?
Je ne pouvais pas les affronter, c'était impossible.
Pourquoi?
Parce que j'ai un conflit de loyauté qui est énorme. On a un prix sur nos têtes, on est acheté, on est voulu, on est déséré, on a l'impression d'être ingrat, on a l'impression qu'on va leur faire du mal. J'avais pas envie de les mettre à mal, j'avais pas envie de les pointer du doigt, j'avais peur, et j'avais peur d'un deuxième abandon. J'avais déjà été abandonnée une première fois, donc imaginer les perdre une deuxième fois, pour moi, c'était impensable. Et surtout à ce moment-là, j'étais jeune, j'avais 17 ans.
Vous le racontez à tout le monde, donc oui. Ils ont dû le savoir.
Non, ils ne l'ont pas su, pas du tout. Moi, je cachais très bien la chose.
Ils ne sont plus là, pardon, vos parents?
Si, ils sont encore là, ils sont encore vivants, mais ils ne sont plus là dans ma vie.
D'accord, vous êtes séparés.
On s'est séparés parce que quand ils ont pris connaissance de ma lutte, ils pensaient, je pense, que je luttais contre eux. Que j'avais une vendetta envers eux, que je me vengeais.
Ont pris ça comme un acte d'hostilité.
Exactement,
envers eux.
Alors que pas du tout, absolument pas. Je l'ai su depuis tellement longtemps que j'aurais pu les confronter, j'aurais pu les engueuler, j'aurais pu me prendre la tête avec eux, mais je n'ai jamais, j'aurais jamais fait du mal et j'en veux pas du mal, pas du tout. C'est pas moi, je lutte vraiment contre un marché, contre des entreprises, pas contre des gens. Ça
mais
n'a aucun sens.
En même temps, Olivia, je pose cette question. En même temps, heureusement qu'ils étaient là, non ou pas?
Par rapport à ma naissance?
Oui, par rapport à votre naissance.
On me le dit très souvent, Olivia, t'imagines, tu serais pas là s'il n'y avait pas eu la GPA, qu'est-ce que tu serais venu? Je serais pas là tout simplement à vous parler, c'est tout. Je serais peut-être dans un autre corps, dans une autre personne, je ne sais pas. C'est une question qui est absolument ridicule. À chaque fois, on me dit, Olivia, tu luttes contre la GPA.
En quel sens? C'est-à-dire que le problème, c'est que, vous n'êtes pas responsable? C'est pas vous qui avez choisi la GPA.
Non, absolument pas.
GPA, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc, à partir de ce moment-là, est-ce que vous avez recherché, vous allez savoir qui étaient vos parents biologiques, qui a...
Oui, la mère porteuse qui m'a portée. Oui. Est-ce que j'ai recherché mes origines, mes racines, mes... Oui. Alors, non. Je n'ai pas, parce que je ne connaissais pas le
processus.
Non, mais je savais pas que les tests ADN existaient, très honnêtement. Je n'avais aucune idée.
Non, ce qui est étonnant, c'est vrai, mais c'est intéressant, et encore une fois, c'est pas du tout une contestation. Ce qui est intéressant, c'est que vous n'avez pas voulu la confrontation.
Non, jamais. Mais ça, c'est le problème avec la quasi... Je parle pas au nom des enfants nés de mères porteuses, mais je me suis constitué un petit groupe d'enfants nés par GPA.
Oui.
Et tous ces enfants ne parleront jamais. Parce que justement, il y a ce conflit de loyauté, parce qu'ils ont peur de leurs parents. C'est normal. Ils ont peur. On a peur. On a été toute notre vie. On nous a bourré le crâne que c'était beau, que c'était magnifique. Et surtout eux, hein, parce que moi encore, on m'a menti. Donc j'ai pas eu ce bourrage de crâne.
Oui, vous l'aviez pas. Oui, c'est ça.
Voilà, mais ces enfants-là, oui, ils ont été.
Oui, ils ont eu.
Ah bah oui.
Dit,
c'est la GPA, c'est magnifique. T'es en vie grâce à ça, grâce à moi, grâce à ce processus. Et ces enfants-là ne parleront jamais, jamais.
Et alors, Olivia, pourquoi pour vous c'est profondément nocif et je dirais immoral?
C'est immoral d'un point de vue de la femme, parce que c'est la marchandisation de la femme. On utilise une femme comme incubateur, comme on loue son utérus, on l'exploite pour sa capacité reproductive. Bon, y a rien de plus abject aujourd'hui que ça. On parle de principe de l'indisponibilité du corps humain, là on marche dessus. On parle de dignité humaine, on traite la femme en tant que chose. C'est horrible sur plein de points. Après, sur le point de l'enfant, c'est terrible aussi parce qu'on dans tous les cas de GPA, alors vous pouvez me mettre éthique, altruiste devant, vous pouvez l'appeler comme vous voulez, c'est toujours un enfant qui est arraché à sa mère à la naissance. Toujours, à chaque fois. Même si la mère n'est pas biologiquement liée à l'enfant.
Oui.
C'est toujours sa mère. C'est la mère et celle qui accouche. Il y a un vieux...
Celle qui porte et celle qui accouche.
C'est elle, la mère. C'est elle, l'enfant va se nouer pendant 9 mois avec elle. C'est elle qui va le faire grandir. C'est elle qui va avoir un échange.
C'est la palette des émotions et de tout ce qui se passe dans le ventre d'une mère.
Attendez, on nous parle du quatrième trimestre de grossesse parce que justement, il faut un lien entre l'intérieur du ventre de la mère et l'extérieur du monde extérieur. Donc, ça compte, il faut ce lien. Moi je dis toujours, on n'enlève pas des... Il y a une loi sur les chiots. Les chiots naissent et il faut absolument qu'ils restent avec leur mère pendant 8 semaines. On a foutu une loi, voilà, ça doit être comme ça, c'est très bien d'ailleurs, parfait. Mais par contre, chez une femme, non, on peut l'arracher à sa mère à la naissance et puis, on dit que tout va bien se passer parce que les parents ont de l'argent et que...
Et quand vous dites les parents ont de l'argent, il faut savoir parce que c'est un business, business mondial.
Oui.
Je rappelle simplement qu'en Ukraine, où il y a énormément de mères porteuses, parce que c'est toujours un problème économique, c'est un problème de misère,
toujours.
Etc. C'est à partir de 50 000 dollars pour l'Ukraine, pour avoir un bébé, entre 110 000 et 170 000 dollars aux États-Unis. Et il faut savoir que le nombre annuel de naissances par GPA est estimé à 2 000 à 2 500 en Ukraine, selon le gouvernement ukrainien, avant 2022, évidemment, avant la guerre. 8 000 aux États-Unis, dont la moitié pour des couples étrangers, selon Centers of Disease Control. Le marché aujourd'hui est de 15 milliards de dollars, le marché mondial, et il serait, selon des consulting, des entreprises consulting, d'ici à 2033, de 100 milliards de dollars.
Exactement. On a fait des études de marché sur la vente d'enfants et sur la location d'utérus. On a basé un marché mondial sur ça. C'est complètement
intéressant. Vous rappelez, vous avez dû voir la phrase de Pierre Berger, le manager d'Yves Saint-Laurent, qui disait les ouvriers donnent bien leurs bras pour la force de travail, pourquoi les mères ne donneraient pas leur ventre pour accoucher? Vous en pensez quoi?
Je trouve ça marrant parce que les ouvriers qui donnent leurs bras, en tout cas, eux, ils ont une pause, hein, ils ont un contrat de travail sur lequel, bon, ils ont un temps, ils ont des RTT, ils ont des congés payés, mais la mère porteuse, elle n'en a pas, hein. Elle en a pas. Elle doit pendant plus de 9 mois, parce qu'il y a le processus de la FIV, il y a aussi après, quand elle doit donner son lait maternel, généralement il y a une clause qui est prévue pour le lait maternel qui doit être fourni après, donc elle est sous contrat pendant un an et demi. Voilà.
Et elle peut continuer, refaire.
Et il n'y a pas de... elle a pas de repos. C'est H24, c'est non-stop. Donc on peut pas me comparer ça avec un ouvrier et une mère qui loue son corps. C'est pas la même chose. On parle pas du tout de la même chose. Et un ouvrier, de ce que je sache, ne va pas vendre sa chair, hein, il va pas vendre son enfant. Donc on oublie très souvent que dans la GPA, il y a donc la mère porteuse, mais il y a aussi ce petit enfant à naître qui lui aussi il fait l'objet de ce contrat, il est marchandisé. Donc on se trouve c'est pas du tout la même chose. Moi c'est ce qui revient le plus souvent, hein, très honnêtement. Mais bon, c'est incomparable.
Oui, c'est ce que revient le nom, mais je vous disais ça parce qu'un certain nombre de gens disent ça, et effectivement, on peut juger ça extrêmement obscène aussi. Enfin, c'est ce genre de phrase, comme de comparaison, oui. Évidemment, de toute façon. Maintenant, c'est illégal, comme vous le savez. En tout cas, en France, c'est totalement interdit. Mais il y a des gens qui contournent, on le sait, puisque ils passent à la télévision, à la radio, expliquer que voilà, ils sont contents, ils ont fait un enfant par GPA, etc. Et quand on leur dit oui, mais la mère, ben non, il n'y a pas de mère. Alors certains vous disent voilà, nous avons donné notre semence. Est-ce que les gens que vous avez rencontrés, les enfants par GPA, ils ont tous vraiment un problème, ou très honnêtement, ou certains sont totalement indifférents, en disant bon, ben c'est comme ça?
Non, c'est très compliqué pour. Alors c'est toutes des filles. J'ai pas encore trouvé de garçon, mais c'est toutes des filles et toutes ont des problèmes. Problèmes psychologiques extrêmement graves. Moi j'ai eu la chance, en tout cas. D'avoir une sécurité, j'avais mon mari, j'avais ma belle-mère, j'avais des médecins autour de moi, j'ai été très accompagnée ces 10 dernières années pour pouvoir enfin prendre la parole. Ça m'a quand même pris un certain moment, hein, de me dire ok, Olivia, il faut que tu commences à défendre ta cause et il faut que tu sortes ce que tu as à dire. Mais ces enfants-là à qui je parle, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Soit c'est du syndrome post-traumatique dont elles souffrent, tentative de suicide, drogue, alcool. Il y en a une, elle a été, c'est horrible, elle est née d'un papa solo. Donc, parce que c'est évidemment, la GPA, c'est la seule manière dont un papa seul peut avoir un enfant. Oui. Hein, c'est assez, assez incroyable.
Et vous dites que la proportion, soit de gays, soit d'hétérosexuels, est à peu près
Alors, on est à 70% de couples hétérosexuels, 30% de couples homosexuels. Donc, c'est pas une question d'homophobie, encore une fois. Moi, je suis contre la GPA pour les homos, pour les hétéros, pour les solos. En tout cas, pour cette jeune fille dont je vous parle, qui est née par GPA de papa solo, elle a 22 ans aujourd'hui. Et elle a été abusée toute sa vie par son père. Donc elle ne parlera probablement jamais comme beaucoup de victimes de traumatismes.
On va continuer à parler de cela avec Olivia Morel pendant un moment encore, après cette petite pause. À tout de suite.
Et avec vous, si vous voulez témoigner, 0826 300 300, réagir ou poser toutes vos questions. On est là pour prendre vos appels. 0826 300 300, à tout de suite sur Sud Radio.
Sud Radio Montauban.
104.7.
Sud Radio.
And if you want these kind of dreams, it's Californication. It's the edge of the world in all of Western civilization. The sun may rise in the east, at least it's settled in a final location. It's understood that Hollywood sells California.
celebrity skin, is this your gender, is that why you're waiting? Firstborn unicorn.
Sud Radio Berkov dans tous ses états.
Alors il faut savoir, je rappelle aux auditeurs Sud Radio, résistants Sud Radio, que la gestation pour autrui est interdite en France. Elle est interdite en France et d'ailleurs dans plusieurs autres pays. La législation française sur ce sujet est très stricte et régie par plusieurs lois qui visent à protéger l'intégrité et les droits des personnes impliquées, notamment la mère porteuse et l'enfant à naître, vous en parliez, Olivia Morel. Effectivement, indisponibilité du corps humain et d'état des personnes qui sont des fondements du droit civil français. Le recours à une mère porteuse, le corps humain ne peut faire l'objet d'un contrat commercial, l'état des personnes comme la filiation ne peut être manipulé par des accords privés. La GPA est vue comme une forme de marchandisation du corps de la femme et de l'enfant à naître. Sauf que, Olivia Morel, on l'entend, je ne dis pas tous les jours, mais enfin, des couples qui soient hétérosexuels, homosexuels, ou des gens qui ont dit, voilà, on a eu recours à la GPA, on est très heureux, on a un enfant, on est fiers, et... Voilà, et ça passe crème.
Et ça passe crème, on utilise, c'est vrai que les médias aujourd'hui sont un petit peu complices hein, dans tout ça, parce que ils font, en tout cas dans le lobby, dans les médias mainstream aujourd'hui, on voit que des belles histoires, on voit ces enfants qui sont mis sur un plateau, ils ont 8 ans, ils ont 12 ans, ils ont 15 ans, mais enfin, 8 ans, 12 ans, 15 ans, on est incapable d'aller à l'encontre de ses parents, hein, c'est très compliqué de se dire, je suis malheureux de la manière dont je suis né, donc, on instrumentalise ces enfants, les médias sont vraiment, je pense qu'il y a une pression sur les médias par le lobby pro-GPA qui est énorme, et voilà, ils se font un peu ils font de la publicité de la gestation pour autrui. C'est terrible, mais c'est la réalité. C'est la réalité. Mais je voulais dire quelque chose. Je ne nie pas qu'il y a de belles histoires. Hein, je ne dis pas que toutes les histoires vont être catastrophiques.
Il ne faut pas dire que voilà, il peut y avoir des enfants.
Mais évidemment, je vais prendre le cas de Christophe Beaugrand. Je suis sûre que son enfant est très heureux. Je ne vais pas le pointer du doigt. J'y crois. Je veux y croire. Heureusement qu'il y a de belles histoires. Heureusement, je vais dire. Mais c'est pas ce qui rend la pratique plus éthique.
Ouais. Ça, c'est pas vous, parce que... en fait, c'est la pratique.
C'est la pratique. Je compare toujours au temps des esclaves. Il y avait des esclaves bien nourris, bien logés. Ils étaient heureux, ça se passait bien. On faisait la promotion pour l'esclavagisme, mais ça a été aboli parce que on peut pas, d'un point de vue éthique, moral, c'est pas possible. Et la GPA, c'est exactement pareil. Il y a de belles histoires, j'en suis certaine. À 100%, mais c'est pas possible de marchandiser le corps d'une femme et de vendre, d'acheter un enfant. C'est impossible. Ouais. Impossible aujourd'hui. C'est inaudible en 2024, en tout cas.
Et que ceux qui disent effectivement, oui, mais vous comprenez, on les fait vivre, ces femmes, c'est bien, sinon elles seraient dans la misère.
Écoutez, s'il y avait Gisèle Halimi qui disait, si vous donnez de l'argent à toutes ces femmes pauvres pour vivre dignement et élever leurs enfants dignement, et vous leur donnez les moyens de le faire, mais il n'y aura plus de location de ventre, comme elle le disait.
Et puis on peut rappeler peut-être aussi, encore une fois, chacun fait ce qu'il veut et on n'a pas de leçon à donner, il y a quelque chose qui s'appelle l'adoption. Oui. Il y a des millions d'enfants de par le monde qui sont abandonnés dans des conditions incroyables, atroces, dramatiques. Et je ne comprends pas pourquoi, et je comprends très bien que le désir d'enfant soit là, et il est plus que respectable et légitime, mais pourquoi on n'adopte pas? Pourquoi ces personnes n'adoptent pas?
Alors parce qu'ils veulent des enfants de leur gène. Voilà. Oui, enfin, alors on dit très souvent, oui, bon, l'adoption c'est difficile, c'est un parcours du combattant. Oui, mais c'est normal parce qu'on protège les enfants. On protège les enfants pour les mettre dans des familles parce qu'ils ont subi un drame.
Sa propre semence.
Voilà,
on
essaie de réparer une situation qui a été déjà compliquée. Donc on essaie de faire au mieux pour rendre ces enfants heureux. Sauf que dans la gestation pour autrui, on va créer un abandon. C'est Dr. René Freeman qui dit ça. C'est un abandon sur ordonnance. C'est un abandon programmé. Et je souhaiterais dire que dans les gestations pour autrui, les commanditaires, ceux qui vont acheter les enfants, les parents d'intention, peu importe comment vous les appelez, il n'y a aucun contrôle sur eux. Aucun, zéro. Il n'y a pas de background check, il n'y a pas de...
Ce qui peut arriver après,
mais
etc.
Mais rien, donc c'est une façon de contourner l'adoption. On utilise la gestation pour autrui quand on a les moyens. Voilà, c'est tout. Mais ça, malheureusement, on a vu plein de cas terribles de couples qui ont abusé d'enfants.
On ne veut pas dire que c'est la majorité,
c'est
l'exception.
Peut-être.
Le problème... Mais effectivement, c'est la marchandisation.
C'est la marchandisation, exactement.
Et c'est ça.
Et le fait aussi que les enfants ne sont pas protégés. Voilà, c'est tout.
Merci Olivia Morel.
Mais merci à vous.
Sud Radio, André Bercoff. Bercoff, dans tous ses états, ça balance pas mal sur Sud Radio.
Pas la peine de chercher ailleurs, je suis énervé, on nous laisse crever, ça me fait hors de moi. L'électricité monte, ça devient infernal, c'est pas normal. On nous prend pour des blaireaux, on s'achemine vers la ruine, ça devient un drame. On paye des factures, mais on se retrouve dans la famille. On va laisser les riches prospérer, les pauvres à chou.
Un rap que on a fait à Sud Radio avec Thibaut Sadler. Bonjour Romain Legoaster.
Bonjour André Bercoff.
Évidemment, comme tout le monde, enfin comme tous ceux qui sont sur les réseaux sociaux, je vous ai écouté, j'ai écouté ce que vous avez dit, et quand vous dites, effectivement, je résume quand vous avez dit, voilà, il y a 4 ans, j'avais pour rêve de reprendre cette petite entreprise bretonne qui me permet d'allier les enjeux industriels, écologiques et sociaux dans notre belle région. Vous occupez des bûches, les bûches densifiées, une petite PME industrielle bretonne bois et bûches qui produit des bûches densifiées dans le Morbihan, en Bretagne. Très bien. Et alors, aujourd'hui, même chez nous, chez Valérie Expert et Gilles Gansman, on parlait de la France Startup Nation. C'est bien, la France Startup Nation. Mais quand on voit pour vous, et justement raconter, qu'est-ce qui se passe et pourquoi vous avez poussé ce cri d'alarme, ce cri au secours sur les réseaux sociaux, et vous étiez au bord des larmes, et on peut se comprendre, parce que vous n'y arrivez plus, vous ne pouvez plus continuer.
Bah c'est moi, je veux bien continuer, mais encore faudrait-il que je puisse en avoir les moyens, c'est-à-dire que moi je suis une petite PME industrielle qui produit, comme vous le disiez à l'instant, des bûches densifiées, mais pour faire tourner une usine, quel que soit finalement le produit qui sort de ces chaînes, il faut de l'énergie. Et l'énergie a subi l'année dernière une véritable explosion sans fondement finalement, puisque la preuve c'est qu'on a eu, moi j'ai une facture qui a été multipliée par 2, puis par 10, et puis qui est revenue multipliée par 4, on finit par être content de n'avoir une facture que multipliée par 4. Mais on peut pas, alors déjà, si vous voulez, dans l'industrie, on peut pas vivre avec une incertitude permanente.
Bien sûr.
Moi, je
quels étaient les chiffres, pardon, Romain Le Goaster, pour ces factures d'électricité? Vous êtes passé de 4000 à 15000 à un moment donné, c'est ça?
Ah non, je suis passé de 4000 à 8000, de 8000 à 40000 et de 40000 à 15000.
En combien de temps, ça?
Donc, si vous voulez. Ah bah en un an à peu près.
En un an.
J'ai eu les 3 premiers mois de 2023 où la facture était de 40 000, donc elle est passée de 4 000 à 40 000, donc fois 10. Alors je rappelle, hein, moi je suis EDF canal historique, hein, j'ai pas joué.
Oui, c'est ça. Vous n'avez pas joué les concurrents, etc. Ou les spéculateurs. Oui.
Non.
Ah vous êtes EDF, ouais, je suis, absolument.
Je suis, voilà, EDF canal historique, comme j'aime le rappeler.
Ouais.
Donc j'allais dire le client lambda, le
d'accord.
Client classique d'EDF, voilà. Je rappelle également, parce que parfois on me dit ça, on me dit mais c'est bizarre de produire de la bûche densifiée qui est un produit écolo en utilisant de l'énergie. Je rappelle que même une éolienne consomme de l'énergie et que moi quand je consomme 10 en énergie, je rends 100 en énergie puisque bah, le pouvoir calorifique de mes bûches c'est 100 fois, c'est 10 fois le rapport d'énergie que je consomme pour les produire. Donc mon équation est absolument parfaite. Il n'y a pas d'incongruité. Ouais. De la bûche densifiée avec des machines qui consomment de l'électricité.
Je suis absolument halluciné de cette variation du prix de l'énergie, du prix de l'électricité pour vous, de vos factures en un an. C'est de la folie furieuse quand même, à un moment donné.
C'est de la pure folie. Et puis en plus, vous savez, on dit dans les affaires, quand c'est pas clair, c'est qu'il y a un loup. Et le problème avec EDF, c'est qu'en fait, rien n'est clair. Rien n'est clair. Là, vous voyez, j'ai changé. Alors, on a changé précipitamment le contrat, puisque sinon c'était là, par contre, l'exécution, puisque je pouvais pas continuer à payer mes factures 40 000 euros par mois, quand même, alors qu'elles étaient quelques mois plus tôt à 4 000.
Ouais.
Et donc, alors, je change de contrat.
Oui.
Et je change de contrat pour voir donc mon nouveau contrat passer. En gros, au lieu de payer 4 000 euros par mois, je paye 15 000 euros par mois. Sauf qu'il y a tout l'arriéré qui est à payer, et c'est une ardoise qui chiffre à 130 000 euros. Et là, EDF, je leur dis, écoutez, ok, je prends ma paume, mais je demande un échéancier.
Ben oui.
Et là, EDF me dit, d'accord, mais vous réglez ça avant la fin de l'année.
D'accord.
Si je vous demandais de payer votre maison par un emprunt, vous payez votre maison en 2 ans.
Avec tous les arriérés, avant la fin de l'année, tout.
Exactement.
Ça, ouais.
Enfin, même avant fin octobre, pour être très précis.
Et quand vous dites, ça me fait faire la clé sous la porte, ça me met la clé sous la porte, je dois fermer mon usine, ils disent, ah oui, mais c'est pas notre problème, quoi. C'est ça.
Ah oui, alors là, par contre, là, ça les intéresse plus. Et alors, ce que je trouve vraiment épouvantable, et c'est pour ça aussi que j'ai lancé mon cri d'alarme, qui, je pense, va, j'espère, va en tout cas me permettre d'avoir un petit répit. Mais c'est qu'en plus, vous recevez, donc moi, j'essaye de négocier depuis un an avec EDF pour avoir un échelonnement plus long.
Bien sûr, c'est plus
Ils disent, non, faut que ce soit réglé à fin octobre, date anniversaire de votre contrat. Et puis, sinon, on coupe. Et puis du coup, quand on n'est pas tombé d'accord fin mars, début avril, j'ai reçu un SMS en disant au fait, pour info, on vient couper l'usine, on coupe l'électricité dans 10 jours.
Mais là, vous venez de recevoir ce SMS là.
Ah bah, enfin, je l'ai reçu il y a 15 jours.
D'accord.
J'ai reçu il y a 15 jours. Voilà. Voilà. Pour info, on vient couper le fruit de votre travail, les 10 salaires, les voilà, tous les collaborateurs.
Vous avez 10 employés, etc. Vous avez 10 employés, là, 10 salaires.
Oui, ouais. J'ai 10 employés. Ouais. J'ai, oui. Ouais. Et deux alternants qui sont aussi d'ailleurs des salariés et deux alternants.
Et dites-moi, est-ce que vous êtes allé, je vous pose la question, vous êtes allé voir autour de vous, que ce soit la municipalité ou le conseil départemental, ouais, ou les autorités, etc.
Comment j'ai secoué le cocotier partout.
Ouais.
Déjà, il faut savoir une première chose, c'est que mon cas n'est pas du tout isolé. Actuellement, on n'en parle pas beaucoup, mais c'est dans aller au tribunal de commerce le plus proche de chez vous et ouais, vous apercevrez que c'est une boucherie. Puisqu'en fait, actuellement, on paye les problèmes d'énergie, effectivement, mais je rappelle également que c'est aussi le moment où on nous demande de rembourser nos PGE, ouais, nos prêts garantis par l'État. Donc c'est de vrais tirs croisés actuellement pour les trésoreries des entreprises. Et donc, on arrive à des équations qui sont insolubles, en fait. Ouais.
Hein, on sait que les faillites s'accumulent, on sait que les faillites se multiplient. Mais alors, justement, quand vous avez secoué le cocotier, vous avez eu des réponses? Vous avez eu des gens qui ont réagi, enfin, qui vous ont dit oui, on va vous aider, ou on va essayer de faire quelque chose?
Alors, déjà, j'ai eu beaucoup de témoignages sympathiques, mais objectivement, même le cabinet de la ministre Olivia Grégoire, qui franchement s'est mobilisé, hein, je peux pas dire le contraire, ouais, mais quand même le cabinet de la ministre me dit on peut pas faire grand chose, je me demande qui est souverain dans ce beau pays désormais, puisque quand on m'explique c'est comme ça, on n'y peut rien, c'est l'Europe. Ça va être intéressant.
On n'y peut rien, c'est l'Europe. C'est devenu le mantra absolu. On n'y peut rien, c'est l'Europe. Absolument.
Exactement. Donc, ça va être intéressant le 9 juin prochain, d'ailleurs, puisqu'on on sera peut-être amené à se rappeler de ces phrases un peu qu'on a reçues régulièrement dans les oreilles. C'est pas de notre faute, c'est l'Europe. C'est pas de notre faute, c'est l'Europe. Je rappelle qu'il y a quand même d'autres pays qui ont fait d'autres choix, hein, le Portugal et l'Espagne.
L'Espagne, absolument.
Voilà, absolument. On ne semblait pas que l'Espagne
ait été boutée hors de l'Europe et été obligée de sortir. Juste, alors, vous lancez une cagnotte, je dis Romain Le Guaster, parce que je pense que beaucoup d'éditeurs, soit qui sont dans votre cas pour certains et leur entourage, et soit que... Alors, comment peut-on joindre, et pour ceux qui sont intéressés, participer ou faire des dons, etc., parce qu'effectivement, vous êtes face au mur.
Ah oui, je suis face au mur. Écoutez, déjà, un grand merci à déjà tous ceux qui se sont manifestés, qui ont participé à cette cagnotte, qui continuent à participer à cette cagnotte, donc qui vous pouvez retrouver sur Litchi, voilà.
Litchi,
Donc j'ai des témoignages bouleversants. Vous savez, pour moi mon métier c'est pas d'ouvrir des cagnottes sur Litchi. Hein. Mon métier c'est de produire des buts gencifiés. Voilà. D'ailleurs j'invite également ceux qui nous écoutent, à venir sur mon site internet voir les produits qu'on propose.
C'est quoi votre site, donnez votre le nom de votre site.
C'est omabuche.fr. OHMABUCHE.
Omabuche.fr. Très bien.
Voilà.
D'accord, c'est transmis, en tout cas, c'est noté, omabuche.fr, voilà. C'est pas Olifi, c'est Omabuche. D'ailleurs, on pourrait faire une chanson là-dessus, Romain Le Guaster.
Bûche Omabuche, exactement.
Voilà, bûche Omabuche, absolument. Il y avait biche Omabuche. Mais dites-moi, c'est vrai que on aurait envie de rire si on n'était pas obligé d'en pleurer sur, comme vous dites, et vous n'êtes pas le seul, et il y a des milliers et des milliers d'entrepreneurs, de petites entreprises qui sont dans votre cas, et franchement, et on dit oui, mais c'est pas nous, c'est l'Europe, on peut rien faire, c'est l'Europe, c'est extraordinaire, moi. Je reviens à ce que vous venez de dire, quoi. Cette espèce d'aveu d'impuissance, on se cache derrière l'Europe, alors on fait des élections pourquoi? Enfin, c'est vraiment une question qu'on peut se poser, hein.
Oui, et puis c'est aussi, on paye cette politique du en même temps, c'est-à-dire qu'on veut en même temps réindustrialiser la France et en même temps, on fait exploser les prix de l'énergie. À un moment, faut faire un choix, en fait. C'est pas possible de dire le tout et son contraire. C'est pas possible. Moi, quand je produis une bûche gencifiée, je fais pas autre chose. Je mets toute mon énergie qui est concentrée, toutes les équipes sont concentrées pour faire ça et on fait pas autre chose.
Et vous voulez dire
si
que
on
vous...
se disperse.
Oui, et quand vous faites une bûche densifiée, vous ne faites pas un tuyau d'arrosage.
Voilà, c'est ça. Voilà. C'est un autre métier.
Voilà, et c'est vrai, mais en politique, ça se passe plutôt comme ça. Hélas, en ce moment. Merci Romain Le Guaster. Et écoutez, voilà, au Mabuche.
Merci, André.
Voilà. Et je vous souhaite tout le courage qu'il faut. Et vous viendrez nous dire que vous avez été sauvé. Voilà.
Promis.
Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Romain Le Guaster. Je rappelle que vous êtes directeur général de Bois et Bûches à Lisieux, dans le Morbihan, en Bretagne. On va marquer une courte pause sur Sud Radio et après on va parler un peu de culture. Après cette petite pause, à tout de suite sur Sud Radio.
Sud Radio Millau.
101.4.
Sud Radio. Sing Texas. Ooh. Ain't no hold'em. Hey. So lay your cards down, 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 down. So park your Lexus. Ooh. And throw your keys up. Hey. Stick around, round, 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 round.
Stick around.
And I'll be damned if I can't slow dance with you. Ooh. Come pour some sugar on me, honey, too. It's a real live boogie and a real live hold down. Don't be a hey. Come take it to the floor now. Woo! There's a tornado. Redemption, passing time, yeah. Ooh, ooh, one step to the right. We headed to the dive bar we always thought was nice. Ooh, run me to the left, then spin me in the middle. Boy, I can't read your mind. This ain't Texas.
And I'll be damned if I cannot dance with you. Come pour some liquor on me, honey, too. It's a real live boogie and a real live hold down. Don't be a hey, come take it to the floor now.
Sud Radio Berkov dans tous ses états.
Et puisque c'est le 1er mai, hein, fête du travail, eh ben on va parler musique. Et on va parler musique à propos d'un spectacle que j'ai vu, et je vous le dis, si vous êtes à Paris, ou si vous êtes parisien, si vous venez à Paris, entre le en mai, des dimanches, jusqu'au 6 juillet, on va donner toutes les dates, et vous allez voir un spectacle formidable sur quelqu'un qui n'est peut-être pas connu de tout le monde, mais qui a joué un rôle extraordinaire chez un certain nombre de compositeurs. Vous allez écouter ces musiques et vous les connaissez toutes.
Thank you.
Eh bien, ce n'était jamais une mission impossible pour Nadia Boulanger. Nadia Boulanger, qui est née en 1887, qui est morte en 1979. Eh bien, elle a été vraiment le professeur, le mentor, la communicante d'énergie pour des compositeurs. Je vais vous donner quelques noms qui ont tous dit on doit tout à Nadia Boulanger. Aaron Copland, Philip Glass, Lalo Schifrin, Quincy Jones, Michel Legrand, Vladimir Cosma, Astor Piazzolla, George Gershwin et tous les autres. C'est formidable. Et alors, ce qui se passe, c'est que je suis allé voir ce spectacle qui m'a vraiment bouleversé, qui raconte justement un dialogue entre effectivement un journaliste et Nadia Boulanger, jouée magnifiquement par Véronique, mais on va en parler avec elle, et qui est absolument passionnant, vraiment passionnant. Comment vous raconter que donc Véronique Soufflet, mise en scène Michel Dodane, et avec Philippe Tarabé qui fait effectivement l'intervieweur. Et c'est passionnant parce que c'est une leçon à la fois de musique, mais c'est surtout une leçon d'humanité. C'est vraiment comment cette femme parle de la musique, parle de chacun et parle de ce formidable respect de la personnalité de chacun qui allait tous devenir, en tout cas. Elle avait des élèves dans le monde entier, c'est bien ça,
absolument,
Véronique Soufflet.
Ils sont venus du monde entier. Ça a commencé par les Américains, avec qui sont venus. Aaron Copland, qui est arrivé au conservatoire de Fontainebleau en 1921, ça a été son premier élève. Et de là a découlé, quand Aaron Copland est rentré aux États-Unis, qu'il est devenu qui il a été, tous les élèves musiciens américains ont voulu venir rencontrer Nadia Boulanger. Ils ont traversé l'Atlantique et ils sont venus étudier avec Nadia. Ensuite, il y a eu ceux qui sont arrivés du Japon, de Roumanie, de Bulgarie, d'Argentine, du monde entier. Vraiment, absolument.
Et c'était dans les années, donc elle a commencé vraiment dans
elle
les années...
Elle a commencé en 1921, elle a commencé à enseigner très très jeune, elle avait 16 ans en 1904, chez elle, et puis à Gargenville, elle recevait aussi dans sa maison de campagne des élèves, et puis les choses se sont accélérées quand le conservatoire de Fontainebleau s'est ouvert en 1921, et où c'est un conservatoire qui s'est ouvert pour les jeunes musiciens américains. Il s'agissait d'offrir à ces jeunes musiciens le meilleur.
Il existe encore, ce conservatoire.
Il existe encore, il est ouvert tous les étés, et absolument, et il reçoit des élèves américains.
Voilà, et alors, justement, dans cette pièce, vraiment, ce qui est extrêmement touchant, d'abord, il y a des extraits, vous faites même chanter les spectateurs à un moment donné, Véronique Soufflet, et ce qui est très intéressant, c'est comment elle parle de l'enseignement, de la musique et de son amour pour la musique. Et vraiment, ça parle à tout le monde. Vous pouvez ne rien connaître à la musique classique ou à quoi que ce soit. Vous allez voir ça. C'est une leçon d'humanité vraiment extrêmement touchante, extrêmement bouleversante. Et qu'est-ce qui fait que cette femme avait ce drive, comme on dit en américain, cet enthousiasme, cette énergie?
C'est un mystère, c'est une alchimiste, Nadia Boulanger. C'est une personne qui a su allier à la fois la sévérité, la rigueur, et puis l'amour, la passion, qui a su, alors elle avait pour injonction première d'obliger ses élèves à être eux-mêmes, surtout, ne pas copier, ne pas vouloir ressembler à qui on n'est pas.
Vous racontez Astor Piazzolla, par exemple, musicien argentin, compositeur argentin.
Absolument, parce qu'il était venu, il avait traversé, lui aussi, l'Atlantique pour venir étudier avec Nadia Boulanger, il maîtrisait l'écriture magnifiquement, il rêvait d'être Bartók, Stravinsky, mais Nadia Boulanger n'arrivait pas à comprendre où était le vrai Piazzolla quand elle l'écoutait. Alors elle lui a demandé de jouer les œuvres qu'il jouait en Argentine avant de venir étudier à Paris avec elle. Oui. Et ça a été une révélation parce que en venant à Paris, il avait totalement occulté le tango. Alors elle lui a dit, mais vous écrivez des tangos.
Elle lui a dit, mais faites le tango.
Vous écrivez des tangos magnifiques, faut oublier l'écriture scolastique, continuer dans cette voie. Et c'est grâce à Nadia Boulanger qu'Astor Piazzolla est revenu au tango et a changé aussi en Argentine.
Je rappelle Quincy Jones, qui ne connaît pas Quincy Jones, le grand producteur de Michael Jackson, le grand compositeur, qui est venu exprès, qui a quitté l'orchestre de Duke Ellington où il était trompettiste pour venir étudier chez Nadia Boulanger pendant 4 ans à Paris.
Absolument, absolument. Il avait entendu Lalo Schifrin, il était tombé, il s'est dit c'est pas possible, faut que je rencontre cette femme, comme beaucoup d'élèves étrangers qui ont traversé.
Elle était comment comme caractère? Vous la jouez, je dois dire, vous l'interprétez magnifiquement, Véronique Soufflet, c'est vrai, vous l'interprétez très. Elle était plutôt dure, elle était plutôt.
Alors c'est Markovitch qui dit qu'elle était à la fois la douceur et la sévérité incarnée, c'est-à-dire que elle était capable d'une immense humanité, d'un amour absolu pour ses élèves. et en même temps était d'une rigueur draconienne à l'égard de la technique. Quoi. Ouais, une fois qu'on maîtrisait la technique, après il fallait être soi-même et voilà, prendre la liberté de s'envoler. Mais il fallait d'abord connaître cette technique. Et puis le prix de la liberté.
Ouais. Et puis l'admiration qui est là pour les compositeurs, pour les grands.
Enfin, ah bah, parle. Oui, Stravinsky, c'est son. Et puis pour les auteurs, pour Paul Valéry, comme dit Michel Legrand, avec Nadia Boulanger, on étudiait pas que la musique, on étudiait la poésie, la littérature, on étudiait l'amitié, on étudiait la vie, quoi. Et avec elle, la vie s'élargissait. Et c'est ça, Nadia Boulanger, elle fait lever le pain, elle fait élargir les choses, elle fait en sorte que
pas chacun... par hasard qu'elle s'appelle Boulanger. Hein.
Exactement. Ouais. Et c'était ça, c'est les capacités, enfin, elle est hors du commun, cette femme, hors du commun. Et aujourd'hui, sa parole est d'une modernité incroyable.
Oui, c'est vrai. Incroyable. C'est vrai, quand on écoute ça aujourd'hui, en 2024, tout paraît extrêmement, en tout cas, logique ce qu'elle dit sur la passion, sur l'amour et sur la rigueur. Parce qu'on ne peut rien faire sans le travail, évidemment.
Rien. Et sur le désir.
Et sur le désir, oui.
S'il n'y a pas de désir, il n'y a rien. Si mon désir n'est pas assez fort, ce n'est pas la peine. C'est vrai que c'est une leçon de vie, une leçon d'humanité, une leçon de...
Et je peux vous dire, on le sent comme ça. Alors je vais vous dire, si vous venez à Paris, si vous êtes parisien, déjà le dimanche 5 mai à 18h au théâtre Essaillon, c'est tout près de Beaubourg, c'est rue Pierre-Aulard, le théâtre Essaillon. Donc le 5 mai à 18h. Et ensuite, du 10 mai au 6 juillet, tous les vendredis et samedis, du 10 mai au 6 juillet à 21h. Voilà, vous avez vraiment ce portrait, au coin de la rue la boulangerie, au coin de la rue l'aventure, au coin de la rue l'humanité. Vraiment, allez voir Véronique Soufflé, allez voir ce spectacle qui dure 1h15, 1h20, et vous y ouvrez la porte du théâtre. Et ce spectacle vous ouvrira parce que voilà, vous passez 1h15 de pur bonheur. Et aujourd'hui, par ces temps un peu durs, ça fait du bien.
Merci beaucoup Véronique Soufflé d'avoir été avec nous. On marque une courte pause et on revient tout de suite après les informations de 13h pour le face-à-face. A tout de suite sur Sud Radio.
Sud Radio Berkoff dans tous ses états, midi 14h. André Berkoff. Sud Radio Arcachon.
100.4.
Sud Radio.
Le soir tombait de tout son poids au-dessus de la rivière. Je rangeais mes cannes, on ne voyait plus que du feu. Je l'ai vu s'approcher la tête ailleurs dans ses prières. Il m'a semblé voir trop briller ses yeux. Je lui ai dit: pleure pour un garçon, tu seras pas la dernière. Souvent les poissons sont bien plus affectueux. Va faire un petit tour, respire le grand air. Après je te parlerai de l'amour, si je me souviens un peu. C'est ce que je voudrais savoir. Et j'ai dit: viens t'asseoir dans la cabane du pêcheur. C'est un mauvais rêve, oublie-le. Tes rêves sont toujours trop clairs ou trop noirs. Alors viens faire toi-même le mélange des couleurs sur les murs de la cabane du pêcheur. Viens t'asseoir. Faire tous les bruits qu'elle veut. Y'a sûrement quelqu'un qui écoute là-haut dans l'univers. Peut-être tu demandes plus
qu'il ne peut. Oh, elle a dit justement, c'est ce que je voudrais savoir. Et j'ai dit, viens t'asseoir dans la cabane du pêcheur. Soit meilleur là dans la cabane du pêcheur.